Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui faire un voyage dans l'espace-temps qui va durer une heure en compagnie de Marc Lachaiseret. Donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Marc Lachaiseret est astrophysicien, théoricien et cosmologue pour le CNRS. Il dirige des recherches au laboratoire Astroparticules et Cosmologie et enseigne à l'École Centrale Paris. Il a également publié de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, notamment Einstein à la plage, où il aborde la théorie de la relativité et son impact sur notre représentation du monde. Il a également participé à quelques films. Marc Lachaiseret, l'un des fondements de la physique classique, postule que le temps est une propriété immuable de l'univers. C'est-à-dire qu'il est le même pour tout le monde, dans tous les référentiels, pour tous les observateurs. Pourtant, au début du XXe siècle, un certain nombre de physiciens ont affirmé que la notion même de temps était incompatible avec la réalité du monde. Et ça, c'est quelque chose qui va quand même très sérieusement à l'encontre de notre perception, notre expérience immédiate du temps. Comment cette idée a pu germer dans la communauté scientifique de l'époque ?
Alors, l'idée a germé d'abord chez Einstein, et c'est ce qui fait finalement sa force et son originalité et son génie, parce que c'est tout à fait vrai que la physique moderne, elle est née à peu près avec Newton quand il a publié ses Principia à la fin du XVIIe siècle. Et Newton finalement introduit une nouvelle manière, non seulement il introduit ce qu'on appelle aujourd'hui la physique moderne avec la manière moderne de faire de la physique, mais il introduit un cadre dans lequel penser le monde. Et ça va avec, parce que si on veut faire de la physique, il faut qu'on ait défini le cadre dans lequel se déroulent les phénomènes physiques. Et précisément, c'est ce que fait Newton. Et c'est une des caractéristiques de la fondation de cette physique moderne. Et donc, ce cadre, pour lui, c'est l'espace et le temps. Et tout ce qu'il va décrire, c'est-à-dire les phénomènes physiques avec les lois qui les gouvernent, se situera dans ce cadre, c'est-à-dire, par exemple, s'il veut parler de la dynamique du mouvement des particules, ça sera un mouvement dans l'espace et dans le temps. Et en même temps, pardon, comme vous le savez peut-être, il va inventer, en même temps que son contemporain Leibniz, ce qu'on appelle le calcul différentiel, c'est-à-dire finalement la branche des mathématiques qui permet de calculer dans l'espace et dans le temps en manipulant des coordonnées, des vitesses, des accélérations, un petit peu comme on le fait aujourd'hui. Et cette physique qu'il a fondée en introduisant de manière formelle le temps précisément dans la physique, comme le cadre des phénomènes, donc cette physique qu'on peut dire que fonde Newton, bien sûr, à la suite des travaux de ses prédécesseurs, cette physique va avoir un très grand succès immédiat, puisqu'on va, par exemple, pouvoir expliquer les lois de Kepler, on va pouvoir prédire le retour de la comète, on va pouvoir ensuite découvrir de nouvelles planètes, etc., rendre compte du mouvement des satellites et de tous les corps célestes. Bon, bref, un succès très grand de cette physique moderne qui va durer à peu près jusqu'à la charnière 19e-20e siècle. Effectivement, comme vous l'avez dit, à ce moment-là, il va y avoir une remise en cause de l'existence du temps dans le cadre de la physique, d'ailleurs de l'existence de l'espace et du temps, parce que d'une certaine manière, ça va ensemble. Et cette remise en cause va résulter d'une crise profonde qui se produit au XIXe siècle, qu'on peut appeler la crise de la lumière, sur laquelle on va peut-être dire un mot dans un moment. Mais c'est une crise qui a beaucoup ébranlé les physiciens. Un petit peu, d'ailleurs, il y a en ce moment, on en parlera peut-être dans un moment, la physique a une crise un peu du même genre à cause du conflit, de la contradiction entre physique quantique et relativité. Bon, c'est pas une crise exactement de même nature, mais c'est comparable. Et cette crise a été résolue finalement par Einstein. Et pourquoi Einstein a résolu, pourquoi on dit que c'est Einstein qui a résolu cette crise et non pas d'autres physiciens comme Poincaré, comme Lorentz, qui finalement ont également trouvé les équations qui annonçaient la future théorie qui allait résoudre la crise? C'est parce que Einstein et Lorentz n'ont pas, Poincaré et Lorentz n'ont pas osé remettre en cause le cadre qu'avait proposé Newton pour faire la physique et qui marchait si bien depuis presque 3 siècles. Et ils n'ont pas osé remettre en cause l'existence du temps. Et ce que Einstein a compris, c'est que pour rendre compte de cette crise. Bon, cette crise, en un mot, c'est le fait que la vitesse de la lumière soit toujours constante. Bon, on pourra revenir là-dessus. Mais pour rendre compte de ceci et de ce que ça implique, Einstein a compris qu'il fallait renoncer à faire de la physique avec l'espace et le temps. Et finalement, ensuite, après plusieurs mises au point, on s'est aperçu que le nouveau cadre pour faire de la physique à la place de l'espace et du temps, c'était autre chose de plus global qui s'appelle l'espace-temps. Et l'espace-temps, bon, bien sûr, on en entend parler un petit peu dans les livres de vulgarisation, tout ça, etc. On a l'impression que l'espace-temps, c'est simplement la combinaison de l'espace et du temps. Ben, ce n'est pas tout à fait aussi simple, parce que si c'était aussi simple, ça ne serait pas vraiment une remise en cause. L'espace-temps, c'est quelque chose qui est plus global, qui remplace les notions d'espace et de temps chez Newton, mais il ne faudrait pas croire que, justement, on peut découper l'espace-temps de manière simple en espace et en temps. C'est quand même plus compliqué que ça, et c'est vraiment une remise en cause de la notion de temps, et c'est pour ça que trouver la théorie de la relativité... Alors là, je suis en train de parler de la relativité restreinte en 1905, puisque Einstein a eu deux étapes dans sa construction des théories de la relativité. La théorie de la relativité restreinte en 1905, qui est ce dont je suis en train de parler, remise en cause de l'existence du temps. Et ensuite, théorie de la relativité générale en 1915-1916, où on a quelque chose d'un peu plus élaboré qui prend en compte la gravitation. Je ne sais pas si on va revenir là-dessus, parce que notre sujet, c'est vraiment le temps. Et la remise en cause du temps, elle est déjà là dans la relativité restreinte. Mais finalement, elle est encore plus profonde dans la relativité générale de 1915. Et c'est peut-être plus intéressant d'en parler. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette très forte rupture épistémologique, la relativité restreinte en 1905, c'est l'abandon de la notion de temps dans la physique, et c'est même plus que l'abandon, c'est la reconnaissance du fait que la notion de temps est incompatible avec la physique. Alors, il faut se rendre compte, aujourd'hui c'est devenu presque banal, parce qu'il y a des tas d'expériences et d'observations, par exemple les rayons cosmiques, par exemple les particules qui vont très vite dans les accélérateurs, par exemple les horloges atomiques, par exemple la navigation spatiale et la communication spatiale, qui prouvent de manière très directe que le temps n'existe pas. Mais à l'époque d'Einstein, tout ça n'existait pas. Donc, pour comprendre que le temps n'existait pas dans la physique, il fallait vraiment aller très loin. Il fallait vraiment avoir un degré de réflexion extrêmement approfondi. Et c'est pour ça que Einstein, vraiment, on dit que c'est un génie. Parce que, comme vous l'avez dit, tout autour de nous semble nous indiquer que le temps existe, parce que le temps, on l'utilise pour parler de notre vie personnelle, pour parler de notre vie sociale, on l'utilise pour se donner des rendez-vous, pour se retrouver tous ici au bon endroit, à la bonne heure. Donc on a l'impression que le temps, c'est quelque chose qui fonctionne, qui fait partie de l'univers et tout. Et pour remettre ça en cause, il faut vraiment y aller très fort. Il faut vraiment oser avoir un esprit complètement contestataire et révolutionnaire comme était celui d'Einstein. Encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas pareil, parce qu'aujourd'hui, on a des tas d'expériences dont je pourrais parler tout à l'heure, dont il est presque évident qu'elles sont incompatibles avec l'existence du temps. Mais encore une fois, ces expériences n'existaient pas du temps d'Einstein, donc il fallait vraiment faire preuve de génie.
D'autant qu'en plus, à l'époque, ils ont quand même, certains physiciens quand même sont allés très loin pour essayer justement de résoudre la crise de la lumière tout en conservant justement l'idée de temps. Je pense par exemple à l'éther qui était censé être le référentiel ultime voilà, dans lequel le temps aurait eu un
alors,
sens.
Si vous voulez, bon, alors on va arriver à cette crise de la lumière du 19e siècle qui a été à l'origine de l'invention de la relativité restreinte par Einstein. Mais bon, pour ça, si on remonte au 17e siècle, à la physique de Newton, qui est un peu déjà très préparée par Galilée, il y a une branche de la physique qui s'appelle la cinématique et qui étudie les mouvements. Et les mouvements, ils sont décrits par des lois que Newton a énoncées dans son bouquin qui s'appelle Les Principia, en 1687, mais qui, pour la plupart, avaient déjà été énoncées par Galilée. Donc on parle de cinématique newtonienne, cinématique, hein, c'est la science des mouvements, cinématique newtonienne ou cinématique galiléenne, à peu près de manière équivalente. Et cette cinématique, elle repose sur trois fondements, je pourrais dire. L'un qui s'appelle le principe d'inertie, je ne vais pas détailler complètement. L'autre qui s'appelle le principe de relativité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà chez Galilée et chez Newton, il y avait une relativité du mouvement, mais qui n'est pas exactement la même que chez Einstein. Donc finalement, c'est un peu... Einstein le disait lui-même, l'appellation de ces théories, théorie de la relativité, pour lui, n'était pas vraiment tout à fait convenable parce qu'il y avait déjà de la relativité chez Newton et chez Galilée. Bon, mais enfin, en tout cas, le fondement de la cinématique, c'est-à-dire la science du mouvement chez Newton ou chez Galilée, c'est le principe d'inertie, le principe d'équivalence et puis la loi de composition des vitesses qui est très simple, qui nous dit que les vitesses se composent en s'additionnant. Mais ça, vous en avez tous l'habitude parce que si vous êtes dans un train qui va à 100 km/h, si vous marchez dans le train à 10 km/h, eh bien, le chef de gare vous verra passer à 110 km/h, 100 plus 10. Ou si vous allez dans l'autre sens, 100 moins 10, 90 km/h. Bon, ça, on en a tous l'habitude. Et cette loi de composition des vitesses par addition était inscrite dans la cinématique newtonienne, qui marchait très bien. Mais on s'est aperçu, à l'époque de Newton, les physiciens se sont aperçus, c'est le Danois Olaus Romer, le premier qui, en étudiant les satellites de Saturne, a montré que la lumière se propageait à une vitesse finie et non pas infinie. Ensuite, cette vitesse a été petit à petit mesurée, et petit à petit, les physiciens se sont aperçus que cette vitesse était toujours constante. Mais si la vitesse est toujours constante, ça veut dire qu'elle ne va pas, par exemple, s'additionner avec la vitesse de la source, et donc elle n'obéit pas aux lois de la cinématique newtonienne. Et petit à petit, les expériences se sont confirmées, les observations également, qui montraient que la vitesse de la lumière, comme elle était toujours constante, elle n'obéissait pas aux lois de la cinématique galiléenne et newtonienne. Or, les lois de la cinématique, c'est quelque chose qui semble assez fondamental, parce que elles rendent compte du mouvement des corps, et le mouvement des corps, il exprime un peu les relations entre l'espace et le temps, vraiment les relations générales qui concernent le cadre de la physique. Donc, ça semblait indiquer que la matière, qui, elle, obéissait très bien aux lois de Newton, et la lumière, qui n'y obéissait pas, c'était comme si elle vivait dans deux univers différents. Donc, ça n'allait pas. Et c'est ça la crise dont je parlais tout à l'heure. Et la crise, donc, a été résolue par Einstein, bien sûr, mais il faut savoir que avant qu'Einstein établisse sa théorie de la relativité restreinte en 1905, il y a deux physiciens qui sont d'une part Henri Poincaré en France et d'autre part Hendrik Lorentz en Hollande, qui ont trouvé une partie de la solution, qui ont trouvé le côté, comment dire, fonctionnel et pratique de la solution, en disant, eh bien, en fait, il faut modifier la cinématique newtonienne en remplaçant la loi de composition, en modifiant la loi de composition des vitesses. C'est-à-dire, au lieu de dire que les vitesses se composent en s'additionnant, c'est-à-dire 100 km/h plus 10 km/h égale 110 km/h, on va introduire une nouvelle loi de composition des vitesses un peu plus compliquée, qu'on appelle transformation de Lorentz. Alors, je ne vais pas vous la détailler parce qu'il faudrait rentrer dans une technique un peu. Mais cette loi avait une caractéristique très intéressante. C'était quand on l'appliquait à la matière qui ne va jamais très vite, qui ne va jamais à la vitesse comparable à la vitesse de la lumière, eh bien, ça revenait pratiquement, avec une très bonne approximation, à la loi d'addition. C'est-à-dire que quand on appliquait cette loi nouvelle à la matière, on retrouvait la loi d'addition de Newton, on retrouvait la cinématique newtonienne. Mais quand on l'appliquait à la lumière, eh bien, on trouvait que la lumière restait toujours constante. Donc c'était une espèce de formule magique dont, à l'époque, ils ne comprenaient pas d'où elle pouvait venir, mais ils l'avaient trouvée, on va dire, par tâtonnement. Et donc, voilà, on disait, si on remplace la loi de composition des vitesses newtoniennes par cette loi-là, eh bien, ça marche. Ça rend compte à la fois de la lumière et à la fois de la matière. Bon, donc, c'était une solution, disons, pragmatique. Mais comment interpréter tout ça ? Bah, ça n'allait pas, parce qu'on s'apercevait que ce n'était pas vraiment compatible avec les idées de l'espace et du temps qu'on avait à l'époque. Et comme vous l'avez dit, ben, les physiciens ont commencé à réfléchir, à pas vraiment comprendre comment on peut concilier ça avec le temps. Bon, et jusqu'à ce que Einstein dise, ben, il faut renoncer à l'idée de temps. Et alors là, si on renonce à l'idée de temps, il n'y a plus de paradoxe. Et on arrive à une nouvelle description qui va être formulée un peu plus tard que 1905 par Minkowski, qui était un ancien professeur d'Einstein, qui finalement, ce n'est pas vraiment Einstein qui a introduit cette notion d'espace-temps, c'est plutôt Minkowski plus tard, mais après qu'Einstein eut remis en cause la notion de temps. Et donc on s'aperçoit que si on remplace les notions d'espace et de temps par la notion d'espace-temps, qui encore une fois est complètement différente, eh bien ça marche. Tout devient logique, tout devient simple, et on s'aperçoit même que toutes les lois de la physique newtonienne et galiléenne sont modifiées, mais que les nouvelles lois finalement sont beaucoup plus simples dans leur énoncé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails également, mais on s'aperçoit que la nouvelle physique exprimée dans l'espace-temps, elle est plus logique, elle est plus concise, elle est plus belle, disent certains physiciens, parce que les lois mathématiques exprimées dans l'espace-temps, les lois mathématiques qui rendent compte du mouvement, de la cinématique, elles sont beaucoup plus simples, finalement. C'est des mathématiques beaucoup plus simples. Et d'une certaine manière, même si on n'avait pas eu les expériences sur la vitesse de la lumière, on peut penser que par des arguments purement mathématiques, les physiciens seraient peut-être arrivés à la théorie de la relativité restreinte d'une manière uniquement théorique. Bon, en tout cas, si vous voulez, voilà. C'est une remise en cause. C'est la remise en cause de l'existence du temps, c'est-à-dire du cadre que Newton avait introduit pour faire de la physique. Remplacement par un nouveau cadre qui est celui de l'espace-temps. Et ça marche de manière extraordinaire. Ça marche, ça rend très bien compte de tout ce qui s'est passé à l'époque. Mais surtout, depuis 1905, ça marche de manière extraordinaire, parce que depuis 1905, la physique a progressé. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ? Il y a eu qu'on a commencé à observer et à détecter des rayons cosmiques qui sont des particules qui vont très vite, qui ne vont pas aussi vite que la lumière. Mais il se trouve que, à l'époque d'Einstein, si vous voulez, il n'y avait que deux choses. Il y avait d'une part la lumière et d'autre part les particules qui allaient très lentement. Mais aujourd'hui, avec d'un côté les rayons cosmiques, qui sont des particules très rapides, accélérées quelque part dans l'univers, par exemple par les champs magnétiques du Soleil, avec aussi les particules dans l'accélérateur qui atteignent des pourcentages très importants de la vitesse de la lumière, eh bien on s'aperçoit que ces particules n'obéissent pas non plus à la loi d'addition des vitesses galiléennes ou newtoniennes. Mais elles n'obéissent pas non plus à la vitesse de la lumière. C'est entre les deux. Et cette loi de composition des vitesses que Poincaré, Lorentz, Einstein ont donnée en 1905, elle rend parfaitement compte de ce qui se passe pour les rayons cosmiques, les accélérateurs. Alors que tout ça était complètement inconnu à l'époque. Donc c'est voilà une loi extrêmement puissante. Et ensuite, on s'est aperçu que quand on veut faire de la communication spatiale, de la navigation spatiale, également, on est obligé d'utiliser la relativité parce qu'on a affaire à des objets qui se déplacent assez rapidement, à des rayonnements qui se déplacent dans l'environnement spatial. Et donc, tout ça, ça veut dire que finalement, par les observations, par les expériences, par la technologie, cette théorie de la relativité restreinte, on peut dire que chaque jour, depuis maintenant un siècle, elle est confirmée des millions de fois, des milliards de fois. C'est quelque chose sur lequel il n'y a plus aucune contestation. Et c'est un formalisme absolument extraordinaire. Et en même temps, je dirais, d'une élégance et d'une simplicité mathématique absolument remarquable. Donc voilà, on est dans l'ère de la relativité, mais je n'ai encore parlé que de la première étape de la relativité.
C'est ça. Mais du coup, la question, c'est si on doit renoncer à l'idée de temps, par quoi la remplace-t-on ? Qu'est-ce que ça peut...
Alors, encore une fois, si on est un physicien, on remplace l'idée... On va dire, je renonce complètement à l'idée de temps, je remplace ça par l'espace-temps, et je reprends toute la physique, je prends tous les manuels de physique. Dès qu'il y a le mot temps quelque part, je regarde la phrase, je la barre et je la remplace par une phrase qui va être exprimée dans l'espace-temps. Et c'est-à-dire que ça a été plus ou moins fait, c'est-à-dire qu'on peut exprimer toute la physique absolument en se passant de la notion de temps. Et ça marche bien mieux et c'est même beaucoup plus simple dans certains cas. Bon, mais évidemment, c'est pas forcément commode parce que nous, notre esprit, il est habitué à travailler avec le temps. Disons le bon sens, l'intuition que l'on peut avoir. Bon, quand on fait de la relativité depuis 40 ans, C'est pas forcément comme ça. Hein. On n'est pas forcément tributaire de cette notion de temps, mais en tout cas, souvent, on a envie de travailler avec cette notion de temps. Alors, et puis le temps, comme je vous ai dit, dans la vie de tous les jours, bah, c'est quelque chose qui est parfaitement utilisable et même, je dirais, indispensable. Donc, comment ça se fait que, alors que la physique nous dit le temps, ça n'existe pas, comment ça se fait qu'on arrive à travailler avec le temps dans la vie courante et à exprimer finalement notre vie personnelle, notre vie sociale avec cette notion de temps? Ben, la réponse, elle est très simple. La réponse, elle a plusieurs volets. Mais le premier volet, c'est que quand on oublie la précision des choses, c'est-à-dire si on fait de la physique approximative, ben, tout se passe localement, et quand je dis localement, ça veut dire par exemple dans cette pièce, ou ça veut dire sur la Terre, ou ça veut dire dans le système solaire, je vais détailler un peu plus tout à l'heure, ça veut dire que localement, tout se passe comme si le temps existait. Mais si on avait des montres qui étaient sensibles au milliardième de seconde, et si une différence d'un milliardième de seconde comptait pour nous, bon, si vous donnez rendez-vous à quelqu'un et que quelqu'un arrive un milliardième de seconde en retard, vous n'allez pas l'engueuler. Bon, s'il arrive une heure en retard, vous n'allez pas être content. Mais si la précision de nos existences était du milliardième de seconde, là, on ne pourrait pas utiliser la notion de temps parce que ça ne marcherait pas. Cette notion de temps, elle ne marche que parce que, finalement, on oublie la précision. Et en revanche, par exemple, la précision que l'on a, qui est suffisante, encore une fois, à nos vies courantes, bah, si on voulait l'étendre au système solaire, ça marcherait déjà plus. C'est-à-dire, si vous avez un copain cosmonaute qui va à l'autre bout du système solaire, bah déjà, vous allez vous apercevoir que quand il va revenir, sa montre ne sera plus synchronisée avec la vôtre. Ça ne veut pas dire que sa montre a marché plus lentement ou plus rapidement. Ça ne veut pas dire que le temps s'est contracté ou que les durées sont contractées, allongées, etc. Ça veut tout simplement dire que sa montre mesure quelque chose qui est complètement différent de ce que ma montre mesure. Parce que ma montre ne mesure pas le temps, sa montre ne mesure pas le temps non plus, mais sa montre mesure des durées. Ma montre mesure une durée. Ma montre mesure quelle durée ? Ben, ma montre mesure la durée des histoires que je vis. C'est-à-dire, quand je rentre dans cette pièce, ma montre va indiquer un chiffre. Quand je sors de cette pièce, elle indique un autre chiffre. Et la différence entre les deux, c'est la durée que j'ai vécue entre mon entrée et ma sortie dans cette pièce. Bon, et c'est vrai pour chacun de vous. Mais en supposant que quelqu'un rentre dans cette pièce en même temps que moi, et puis qu'il va faire un tour, qu'il va se balader et qu'il revient, eh bien, il n'aura pas vécu la même durée quand on recomparera nos montres. Ça, c'est la grande nouveauté de la physique du XXe siècle. C'est quelque chose qui a été observé. Et ça veut dire qu'il est impossible de synchroniser toutes les durées que nous vivons de manière à reconstituer ce qu'on appelle le temps. Alors, encore une fois, tant qu'on a une précision qui est moins bonne que le milliardième de seconde, on ne s'en aperçoit pas. Donc, ça veut dire qu'entre deux événements, on vit tous les mêmes durées. On a l'impression qu'on vit tous les mêmes durées. Et au milliardième de seconde près, c'est vrai. Donc, on va dire, bah, cette durée, on appelle ça le temps. On prend un temps zéro, on se met d'accord sur un temps zéro. Ça peut être la Révolution française ou la naissance du Christ ou ce que vous voulez, votre propre naissance. Et puis, on va tous se mettre d'accord puisque nos montres sont synchronisées. Et voilà, c'est le temps. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a construit des horloges très précises, qu'on appelle des horloges atomiques. Parmi ces horloges atomiques, il y a des horloges particulières qui s'appellent les fontaines optiques, qui sont les horloges les plus précises que l'on ait. Ben, on peut faire ça. On va dire, voilà, on prend deux horloges de ce genre qu'on met l'une à côté de l'autre, on les synchronise, on les met à l'heure, et puis on les regarde battre, et elles battent évidemment de manière synchrone, parce qu'on sait que sur 13 milliards d'années, elles ne vont pas se décaler de plus que quelques secondes. Donc quand on les regarde, on voit qu'elles sont parfaitement synchrones. Et puis on en prend une, et puis on l'amène, ça a été fait, hein, c'est une expérience qui a été faite il y a un ou deux ans, on l'amène à l'étage au-dessus. Et à l'étage au-dessus, c'est pas loin, mais le champ gravitationnel terrestre, il est un tout petit peu plus faible. Et puis on la ramène, et ben, elle est désynchronisée. Pourquoi ? Parce que, justement, chacune a mesuré la durée de son histoire. Elles n'ont pas mesuré le temps, Parce que si on voulait penser que les horloges mesurent le temps, comme elles mesurent des choses différentes, on dirait laquelle mesure le temps ? Est-ce que c'est l'horloge qui était en bas ou l'horloge qui était en haut ? Comme elles donnent des indications différentes, ça ne peut pas être les deux à la fois. Et si on en a une troisième, elle va encore donner des indications différentes. Donc si les physiciens pensaient que le temps existe et qu'ils voulaient inventer un appareil qui mesure le temps, ben, il s'aperçoit que s'ils ont trois copies identiques de cet appareil, elles vont donner trois résultats différents. S'ils ont 50 copies, elles vont donner 50 valeurs différentes de l'heure qu'il est. Autrement dit, l'heure qu'il est, ça n'a pas de sens tant qu'on fait de la physique de précision. Encore une fois, tant qu'on est à nos échelles, c'est des différences qui sont des infimes fractions de secondes indécelables. Et quand on fait, encore une fois, de la physique précise, on s'en aperçoit. Et nous-mêmes, si on voulait, par exemple, aller dans l'espace, faire des voyages intersidéraux, ben, les différences de durée que l'on pourrait vivre ne seraient plus des milliardièmes de secondes, mais des secondes ou peut-être des jours, peut-être des années. Vous avez peut-être entendu parler du paradoxe qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin. Paul Langevin, physicien français, était un ami d'Einstein et un des premiers à avoir compris et apprécié la théorie de la relativité. Et comme il voulait faire comprendre ce qui se passe dans la relativité, il a inventé une petite histoire qu'on appelle l'histoire des jumeaux de Langevin, qui est exactement l'expérience que je vous ai racontée, mais si vous voulez, où on amplifie les phénomènes d'une manière fictive, c'est-à-dire on considère deux jumeaux. Bah, deux jumeaux, quand ils sont sur Terre, ils ont le même âge par définition. Et on suppose que ces deux jumeaux, il y en a un des deux qui va devenir cosmonaute. Donc le jour, par exemple, de l'anniversaire de leurs 20 ans, ils se disent au revoir une dernière fois parce qu'il y a un des jumeaux qui va partir dans l'espace. Et il part dans l'espace, il fait son voyage et il revient. Et quand il revient, il a vécu 10 ans et il s'aperçoit que son jumeau sur Terre a vécu 30 ans. Donc quand ils reviennent, un des deux jumeaux a 30 ans et l'autre a 50 ans. Voilà, ils ont vécu des durées différentes et donc ils se retrouvent, ils s'embrassent de nouveau, ils ont 20 ans de différence. Alors évidemment, c'est choquant, c'est complètement contraire à notre idée, à l'idée que nous avons du temps, mais justement, Langevin a introduit cette histoire pour montrer exactement la nature de ce que c'est que la relativité. Et évidemment, ça n'a pas été fait avec des jumeaux, mais ça a été fait avec des horloges, ça a été fait avec des horloges qu'on balade dans des avions, c'est observé tous les jours dans les accélérateurs de particules, avec les rayons cosmiques, etc. Donc c'est vraiment un effet réel, c'est pas du tout un effet fictif ou purement théorique, et c'est la manifestation directe de l'impossibilité de l'existence du temps. Et donc c'est pour ça que quand on fait de la physique maintenant, quand on veut décrire ce qui se passe dans les accélérateurs de particules avec les rayons cosmiques, pour la navigation spatiale, pour les télécommunications spatiales, par exemple pour le GPS, il est impossible de décrire ces expériences en utilisant le temps. On est obligé de se placer dans l'espace-temps, de réfléchir avec des problèmes de signaux, de transmission de signaux. Ceux qui étaient là hier, j'ai parlé de ces moyens de transmission de signaux pour essayer de se synchroniser. Y a toute une physique qui est exprimée comme ça, en faisant totalement abstraction de la notion de temps, et qui marche très bien, et qui est même, je vous dis, dès qu'on a affaire à des expériences un peu précises, qui est même la seule qui marche.
Mais du coup, justement, cette différence, le fait qu'on ne puisse pas justement se synchroniser, fait que, en gros, on vit tous nos vies avec comme une succession de maintenant, et en fait, ces maintenant-là ne sont pas les mêmes selon le point de l'univers dans lequel on se place.
Absolument. C'est-à-dire, on a accroché à notre notion de temps. Bon, si vous étiez là hier aussi, j'ai plaidé l'idée que le temps n'est pas une notion primitive, mais que c'est quelque chose que nous reconstituons à partir de notions davantage primitives, qui sont les durées, la simultanéité, la chronologie, la causalité, etc., qui, elles, sont des notions qui sont vraiment bien définies. Et ce qu'on appelle le temps, de mon point de vue, c'est finalement une sorte de reconstruction que nous faisons pour notre usage personnel et pour notre usage social à partir de ces notions primitives que j'ai mentionnées, notamment les durées. Par exemple, quand vous dites « je mesure le temps », qu'est-ce que c'est mesurer le temps ? C'est simplement regarder sa montre ou regarder l'horloge. Mais vous avez peut-être compris qu'une horloge ou une montre, ça n'est pas un instrument de mesure du temps. C'est-à-dire, je peux fabriquer une montre dans mon usine avec autant de soins que possible. Et quand ma montre est finie, quand elle sort de l'atelier, elle ne va pas me donner l'heure. Il faut que je la mette à l'heure. En revanche, elle va être absolument parfaite pour m'indiquer des durées. C'est-à-dire, si j'ai bien fait ma montre, je sais qu'un tour d'aiguille correspond à une minute. Donc, c'est un parfait instrument pour mesurer une durée. Et comment je transforme ma montre en instrument qui me donne le temps ? Bah, c'est en la mettant à l'heure, tout simplement. Et la montre, elle va simplement m'indiquer la durée qui s'est écoulée entre le moment où je l'ai mise à l'heure et le moment où je la regarde. Et puis, par un dispositif qui a été prévu, tout ça est agencé de telle manière que les aiguilles m'indiquent directement l'heure qu'il est. Bon, c'est très bien. Mais si je l'ai mise à l'heure une demi-heure trop tard, elle va constamment m'indiquer l'heure une heure trop tard. Donc, ce n'est pas du tout un instrument de mesure du temps. Des instruments de mesure du temps, il n'y en a pas. Tous les instruments qu'on appelle de mesure du temps sont des instruments de mesure de durée que l'on convertit finalement en valeur du temps. Ou alors, si vous regardez avec l'horloge parlante ou votre smartphone, c'est simplement quelque chose qui vous transmet un message depuis une autre horloge. Donc, on est ramené au même problème. Donc, pas vraiment de temps, mais des durées. Et c'est une reconstitution. Et j'avais dit tout ça pour répondre à la question, mais j'ai oublié la question.
Qui était que, admettons par exemple qu'il y a un petit alien à l'autre bout de l'univers, il percevra...
Ah oui, c'est la notion de présent. Oui, alors c'est cette notion de présent, ce qu'il faut comprendre, c'est que le présent, premièrement, il nous est inconnu. Parce que quand je vous vois ici, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que je vous vois ? Ça veut dire que la lumière émise par ces lampes va frapper votre peau ou vos habits et puis se réfléchir et atteindre ma rétine. Donc, il faut un certain temps. Ce n'est pas beaucoup, hein, on est toujours dans les petites fractions de secondes. Mais ça veut dire que je vois chacun de vous dans le passé, dans mon passé. Et ceux qui sont au fond, je les vois dans un passé plus lointain que ceux qui sont au premier rang, tout simplement parce que la lumière met un tout petit peu plus longtemps pour venir du fond de la salle que depuis le premier rang. Donc, le présent, et une chose qui est certaine, c'est que je ne le connais pas. Puisque je vous vois dans mon passé, ce que vous êtes en train de faire au présent, je ne le sais pas. Si je regarde le soleil, par exemple, supposons qu'il y ait une éruption solaire qui se produise en ce moment... Bon, en fait, quand on veut être rigoureux, on s'aperçoit que le « en ce moment », justement, ça ne veut rien dire. C'est le but. Mais enfin, bon, intuitivement, on va dire une éruption solaire qui se produit en ce moment. Bah, la lumière de cette éruption solaire va mettre 8 minutes pour me parvenir. Donc, s'il y a une éruption solaire qui se produit en ce moment, je ne peux pas le savoir. Je le saurai dans 8 minutes. Et ça veut dire que ce qui est présent, pour autant que ça ait un sens, je n'en ai pas connaissance. Et ce dont j'ai connaissance, ça n'est que mon passé. Mais le problème aussi, c'est que mon passé, ce n'est pas tout à fait la même chose que le passé de ma voisine ou le passé de l'un d'entre vous. Parce que comme on n'est pas au même endroit, en toute rigueur aussi, s'il y a une particule, par exemple, qui se désintègre ici, moi, je vais le savoir au bout d'un milliardième de seconde et vous allez le savoir au bout de 5 milliardièmes de seconde. Donc, on n'aura pas l'information en même temps. Et ceci, c'est dans mon passé. Je peux en avoir connaissance, alors que vous ne pouvez pas encore en avoir connaissance. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Je dis tout ça parce qu'on peut se demander quels sont les événements qu'on peut considérer comme réels. Encore une fois, bon, si en ce moment même, il y a une éruption solaire, comme je n'en ai aucune connaissance, je ne peux pas en parler. Et c'est un peu gênant de dire que c'est réel. En revanche, dans 8 minutes, quand je verrai la lumière qui vient de cette éruption solaire, je pourrais dire « Ah ben, c'est réel, et je l'ai vu, j'en ai une photo, où ça s'est imprimé sur ma rétine, etc. » Donc, dire que ce qui est réel, c'est ce qui se déroule au présent, encore une fois, c'est un peu gênant, parce que ça voudrait dire que tout ce qui est réel, je ne le connais pas, et tout ce que je connais, ce n'est pas réel. Donc, on a envie de dire ben, « Ce qui est réel, c'est plutôt ce qui s'est déroulé dans le passé, dont je peux t'avoir... Donc je peux avoir une information que je peux mesurer, que je peux observer. Mais le problème, encore une fois, à ce moment-là, c'est que ce qui est dans mon passé n'est pas forcément la même chose que ce qui est dans son passé ou dans le vôtre. Et ça veut dire que la notion de ce qui est réel, elle est différente pour chacun de nous. Donc vous voyez que... Et puis il n'y a même pas besoin, de toute façon, d'invoquer les théories de la relativité pour ça, parce que c'est simplement le fait que la connaissance se propage par des signaux, par exemple la lumière... qui eux-mêmes
se propage à vitesse finie. Ça ne va pas à vitesse infinie. Donc tout ça, ça donne du mal à définir la notion de présent. Et en fait, Einstein va beaucoup plus loin, parce que non seulement le présent nous est inconnaissable, ça je pense que vous l'avez bien compris, c'est assez simple à comprendre, mais d'un autre côté, ce que Einstein montre, alors là c'est un peu plus compliqué à comprendre, parce qu'il faut rentrer dans des raisonnements plus subtils, je dirais, mais pas compliqué, mais subtil, il faut penser à ça à tête reposée. Ce que montre Einstein, c'est que la notion de présent, elle n'a même pas de sens. C'est-à-dire, non seulement ce qu'on voudrait appeler présent nous est inconnaissable, de la manière que j'ai vaguement expliqué, mais en fait, la notion de présent n'a pas de sens. C'est-à-dire, si je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le Soleil en ce moment ? Ce que Einstein a montré, c'est que la réponse va dépendre si c'est moi ou elle ou vous qui répondez, d'une certaine manière, parce qu'on n'aura pas la même notion de « en même temps ». Autrement dire, si chacun a une notion différente de ce qui se passe en même temps, ben ça veut dire que ça n'a plus d'existence objective, ça ne veut plus rien dire. Et d'une certaine manière, il est impossible de dire ce qu'est le présent. Il est impossible de définir ce que c'est que la simultanéité. Et ça, finalement, c'est par là qu'Einstein est passé pour nier l'existence du temps. Parce que la négation de la possibilité de simultanéité, c'est quelque chose qui résulte d'un raisonnement très direct. Encore une fois, je ne vais pas vous le faire ici, parce que bien qu'il soit direct, il nécessite quand même d'avoir l'esprit au repos, de se concentrer, mais il y a plein de bouquins où vous pouvez trouver ça. Donc, la simultanéité est impossible. Ça, c'est ce qu'Einstein a compris assez rapidement. Mais d'un autre côté, si le temps existait, ben, la simultanéité serait bien définie, parce que si le temps existait, ça veut dire que chaque événement a une date, et pour savoir si deux événements sont simultanés, il suffit de savoir s'ils ont ou non la même date. Donc, le fait que la simultanéité soit impossible à définir, Einstein a très vite compris que ça voulait dire que le temps était impossible à définir, qu'il ne pouvait pas exister dans la physique, et c'est ça son cheminement. Il est arrivé à la négation du temps en passant par la constatation de l'impossibilité de la simultanéité. Ce qui veut bien dire, d'ailleurs, que simultanéité est une notion finalement primitive par rapport à la notion de temps. C'est-à-dire, quand on est dans la notion du temps habituelle, dans la notion du temps newtonien, on sait ce que ça veut dire simultané. Si je vous dis qu'est-ce qui se passe en ce moment à Paris, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la Lune, sur Mars, vous pouvez me dire, peut-être je ne sais pas, mais vous êtes tous persuadés qu'il se passe quelque chose en ce moment. Ça a un sens, la question a un sens. Eh bien non, ce que dit Einstein, ce que dit la physique et ce que prend en compte la relativité, c'est que non, cette notion de simultanéité n'a pas de sens, elle ne peut pas en avoir, et si on se force à essayer de trouver une méthode pour répondre à la question, ben on va percevoir que chacun de nous va donner une réponse différente et qu'il n'y en a pas une qui sera meilleure que les autres. Donc on peut répondre n'importe quoi. Et répondre n'importe quoi à une question, sachant que tous ces n'importe quoi sont aussi valables les uns que les autres, à mon avis, enfin de l'avis de tout le monde, ça veut dire que la question n'a pas de sens.
Mais du coup, si le temps est une expérience personnelle, qu'est-ce qui différencie intrinsèquement les instants passés, futurs et présents ? Est-ce que la physique distingue ces instants-là ?
Ben, si vous voulez, justement, c'est difficile parce que si je parle de mon présent, pour quelqu'un qui est, ben, par exemple, qui serait sur la planète Mars, ça n'est pas encore dans son présent, c'est dans son futur. Donc la notion de présent, passé, futur, elle est personnelle. Je dis c'est dans son futur parce que ce qui se passe dans mon présent, il ne peut en avoir connaissance, encore une fois, que dans 8 minutes. C'est-à-dire si je lui dis je suis en train de parler dans ce micro, le temps que mon message lui arrive, il faut 8 minutes. Donc d'une certaine manière, je suis pas dans son présent. Ou alors, ça peut arriver. Enfin, voilà, cette notion est mal définie. Donc la notion du temps, du passé, du présent, effectivement, elle est tout à fait personnelle. Et d'une certaine manière, la physique va considérer, quand je fais de la physique, je n'utilise pas vraiment cette distinction. C'est-à-dire, si je veux décrire ce que je suis dans l'espace-temps, je suis obligé de parler de tous les instants de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, disons. Et qu'est-ce qui s'est passé de ma naissance jusqu'à aujourd'hui ? eh bien, j'ai vécu une suite d'événements, continue. Ces événements, par exemple, c'est les battements de mon cœur, c'est mes regards, ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu, les gestes que j'ai faits, etc. Donc je peux dire que l'histoire de ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est une suite continue d'événements. Et l'espace-temps, finalement, c'est l'ensemble de tous les événements qui se déroulent dans l'univers. En particulier ceux qui me concernent, mais aussi ceux qui vous concernent, ceux qui concernent personne. Par exemple, s'il y a une météorite qui s'écrase sur Jupiter, c'est un événement. Voilà. Bon. Et l'espace-temps, elle a un caractère géométrique, et c'est-à-dire qu'on va dire que chaque événement, c'est un point de l'espace-temps. Et par exemple, tous les événements que j'ai vécus, ce sont des points. Et comme ma vie, c'est une suite continue d'événements, je vais la représenter dans l'espace-temps comme une suite continue de points. Et une suite continue de points, c'est quoi ? C'est une ligne. Donc ma vie, c'est une ligne. Et on appelle ça ma ligne de vie. Et quand je suis en relativité, je vais me décrire, moi, par ma ligne de vie. Chacun de vous a une ligne de vie. Et si on se retrouve ensemble en ce moment, ça veut dire que, à un certain endroit dans l'espace-temps, toutes nos lignes de temps se réunissent. Et puis après, elles vont de nouveau diverger lorsque chacun va rentrer chez soi. Bon, donc, mais on a cette description en ligne de vie. Et quand je vais parler de ma ligne de vie dans l'espace-temps, c'est tous les événements que j'ai vécu, que je vis et que je vivrai. Alors, c'est vrai qu'à chaque instant de ma vie, je ne peux en vivre qu'un seul à la fois. Autrement dit, dans le langage de la relativité et de la ligne de vie, qu'est-ce que c'est que ma vie ? C'est que je parcours ma ligne de vie point après point, de manière continue. Autrement dit, je vis les événements de ma vie, les instants de ma vie, je les vis les uns après les autres. Je ne les vis pas ensemble, je ne vis pas ma ligne de vie d'un coup. Je ne vis pas tous les événements de ma vie d'un coup, mais finalement, j'explore ma ligne de vie événement après événement. Comme je peux vous parler de l'autoroute qui va de Paris à Lyon, je peux en parler globalement. Je peux avoir une vision de cette autoroute qui doit faire à peu près un millier de kilomètres. N'empêche que si je veux le parcourir, je suis obligé de le parcourir un mètre après un mètre avec ma voiture. Je ne peux pas le parcourir d'un coup, ça n'a pas de sens. Ma vie, c'est pareil. Je ne peux pas vivre ma vie d'un coup. Je suis obligé de la vivre comme ça, instant après instant, point après point. Alors pourquoi c'est comme ça ? J'en sais rien. La physique ne le dit pas. La physique ne dit pas pourquoi j'ai l'obligation de vivre ma vie comme ça, instant après instant, et non pas d'un coup. Est-ce que la biologie le dit ? À ma connaissance, non, ni la physique, ni la psychologie, ni la neuropsychologie. Pour moi, c'est un des grands mystères. Pourquoi je suis obligé de vivre ma vie point par point ? Et également, pourquoi je me souviens des événements que j'ai vécu hier et je ne me souviens pas des événements que j'ai vécu demain ? Parce que dans cette description relativiste, il y a ma ligne de vie qui est... C'est tous les événements que je vis dans ma vie. Je peux dessiner cette ligne de vie avec les événements que j'ai vécus il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, que je suis en train de vivre. Puis ceux-là, je ne les connais pas encore, mais voilà ce que je vivrai dans un mois, dans deux mois, dans 10 ans. Tous ces événements. Et finalement, si je dessine ça, on se rend bien compte que tous ces événements, ils ont le même statut, quoi. C'est des points dans l'espace-temps, ils sont tous sur une ligne, très bien. Mais moi, je suis là, en ce moment. Et ceux qui sont ici, dans ce que j'appelle mon passé, je les connais, j'en ai la mémoire, et pas les autres. Pourquoi ? Voilà encore une question à laquelle ni la physique, ni rien, à mon avis, n'apporte de réponse. Pourquoi je me souviens des événements que j'ai vécu hier et je ne me souviens pas des événements que je vais vivre demain ? Pourquoi je distingue le passé et le futur ? C'est ce que j'appelle la flèche du temps. Ça, c'est un grand mystère. Et personne n'en a la réponse. Et, vous voyez, ça ne concerne pas le temps, mais ça concerne, si vous voulez, ce que moi, j'appelle mon temps personnel. Et mon temps personnel, c'est la manière dont je m'écoule moi-même. Plutôt que de dire le temps s'écoule, je préfère dire je m'écoule, non pas dans le temps, mais je coule le long de ma ligne de vie. Cette ligne de vie, elle est dans l'espace-temps, donc je coule dans l'espace-temps. Et ma vie, c'est quoi ? C'est ça. C'est que je coule, je m'écoule, si vous voulez, dans l'espace-temps. Je parcours ma ligne de vie du point de départ au point d'arrivée.
Du coup, avant de donner la parole au public, j'aurais une petite question. C'est-à-dire que si les événements futurs ont la même valeur que les événements passés, que, que nous suivons notre ligne de vie, est-ce que ça veut dire que notre futur est d'une certaine manière déjà écrit, qu'il est la conséquence logique de toutes les causes qui l'ont précédé?
Bon, voilà, ça c'est une question qui tourmente, je dirais, tous les penseurs depuis la plus lointaine antiquité. Si vous regardez le mythe d'Œdipe, c'est exactement cette question, parce que la Pythie dévoile à Œdipe son futur, une partie de son futur, c'est-à-dire qu'il va tuer son père et il va coucher avec sa mère. Œdipe est horrifié d'apprendre son futur, donc il va tout faire pour ne pas réaliser le futur qu'on lui a prédit. Et c'est exactement les efforts qu'il va accomplir pour éviter d'accomplir ce futur qui vont faire qu'il va accomplir ce futur. Donc, vous voyez, ça veut dire le futur est écrit et quoi que je fasse, je ne peux pas y échapper. Alors, est-ce que c'est comme ça dans le monde ou bien est-ce qu'il y a un futur qui n'est pas encore écrit? Je pense qu'il n'y a aucun moyen de répondre à la question, en fait. On ne peut pas savoir parce que quand le futur va arriver demain, est-ce que c'était celui qui était déjà écrit ou est-ce qu'il n'y avait rien d'écrit ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit mais je l'ai changé? Comment savoir? Il n'y a pas, puisque je ne sais pas ce qui éventuellement pourrait être écrit, je pense que c'est un problème purement formel d'une certaine manière sur lequel les philosophes peuvent se pencher et qui n'a pas de réponse. Alors il y a quand même deux choses à remarquer, c'est que ça touche à la question du libre arbitre. Parce que si le futur est complètement écrit et que quoi que je fasse, je ne peux pas le changer, s'il est déterminé, ça veut dire que finalement, je n'exerce pas ma volonté. Je crois choisir ce que je vais faire à l'instant prochain. C'est-à-dire quand je vais me lever, je vais choisir si je sors de cette salle à droite, à gauche ou par derrière, ou si je vais rester discuter avec quelqu'un. Je crois que je vais choisir, mais non, c'est déjà écrit, c'est déterminé, il n'y a aucun choix de ma part, donc mon libre arbitre est une complète illusion. Bon, beaucoup de philosophes pensent qu'il en est ainsi, mais je ne vais pas répondre à leur place. Ben, il se trouve que j'ai écrit un livre sur les voyages dans le temps, et c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous parlais de la Pythie et des prédictions à Œdipe, et Œdipe, lui, il était dans une situation où, visiblement, il pouvait comparer le futur écrit avec le futur réel. Et il a fait la comparaison et il s'est aperçu qu'il n'y avait pas de distinction. Bon, comme je vous ai dit, nous, dans la vie courante, on ne peut pas. Mais il y a une situation où ça pourrait être possible. C'est justement le voyage temporel. Alors, je n'ai pas le temps de développer beaucoup, mais il existe des situations de voyage temporel possibles, en principe, en relativité, où, par exemple, je vais me retrouver à 40 ans à côté de moi-même à 20 ans. Donc, en m'adressant à moi-même à 20 ans, je peux lui faire passer un petit papier où j'aurais écrit, ben voilà, tu as 20 ans, mais à 30 ans, sache qu'il va t'arriver ceci, je ne sais pas, tu vas te marier, tu vas déménager, etc. Donc, à mon moi de 20 ans, je communique un papier avec son futur, qui, moi, est mon passé, puisque j'ai 40 ans. Mais pour lui, c'est son futur. Donc, il connaît son futur qui est déjà écrit. Donc il peut se dire, est-ce que j'ai la possibilité de le modifier? C'est-à-dire, est-ce que je peux dire, à 30 ans, je vais bien faire attention de ne pas me marier et de ne pas déménager? Bon, ben, ce que dit la physique, en tout cas, c'est que non, il n'en a pas la possibilité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le principe de cohérence. Ça ne pourrait pas heurter la logique. Bon, on parle aussi quelquefois du paradoxe du grand-père. Comme vous êtes des amateurs de science-fiction, je pense que vous en avez tous lu des versions dans des nouvelles ou dans des romans. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire, je vais dans le passé, je tue mon grand-père avant qu'il n'ait eu des enfants. Donc mon père n'existe pas, donc je n'existe pas, donc je ne peux pas aller dans le passé tuer mon grand-père, mais dans ce cas-là, il peut très bien avoir des enfants, etc. Et donc j'existe. Bon, enfin, voilà. C'est un paradoxe. Et ce paradoxe, en fait, n'en est pas un du point de vue de la physique, parce qu'il y a une cohérence qui fait qu'il n'y a pas de paradoxe, tout simplement. Mais en revanche, c'est une négation de mon libre arbitre. Donc si le voyage dans le temps existe, on pourrait vérifier si oui ou non notre libre arbitre est une réalité ou non.
Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, beaucoup. Est-ce que quelqu'un pourrait apporter un micro? Pas du tout. Il y a un micro qui arrive à l'avant, monsieur. Juste là.
Bonjour. Qu'en disent les théories comme les géométries non commutatives d'Alain Cohn concernant les notions d'univers bloc et le libre arbitre?
Je ne crois pas que les théories d'Alain Cohn soient arrivées à un degré de précision suffisant pour répondre. Mais de toute façon, la théorie... Bon, Alain Cohn propose une nouvelle géométrie. Je vais répondre rapidement parce que je pense que c'est un peu technique. Alain Cohn propose d'une part une nouvelle géométrie, ce qui n'est pas une théorie physique et qui donc n'a absolument pas vocation de répondre à cette question. D'autre part, Alain Cohn a aussi un modèle de physique des particules qui est très intéressant, mais il donne une nouvelle description de la physique des particules et ça ne modifie absolument rien en ce qui concerne la relativité, l'espace-temps et la question de l'univers bloc. Donc je dirais la géométrie non commutative et les travaux d'Alain Cohn, c'est quelque chose de très intéressant, mais qui, sur cette question, en l'état des choses, je dirais, ne change rien.
Vous avez parlé de la flèche du temps il y a quelques secondes, enfin quelques minutes plutôt, et il y avait eu déjà une conférence sur la flèche du temps. Et lors de cette conférence, vous avez évoqué la flèche de l'espace, enfin de l'espace-temps,
et ensuite
la flèche de l'espace.
Oui, tout à fait.
En disant, on va en parler.
Oui.
Et plus jamais. Donc,
Dans les débats, évidemment, on n'est pas tout à fait maître de la parole toujours. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, quand on fait de la géométrie, quand on fait de la physique relativiste, on représente l'espace-temps d'une manière géométrique, vous l'avez bien compris, par un objet géométrique. Bon, ça s'appelle une variété, mais enfin, peu importe. Et cette géométrie a la propriété d'être orientable, c'est-à-dire que il y a deux orientations possibles. Bon, si vous avez une droite, par exemple, si vous avez une ligne, sur une ligne, il y a deux orientations possibles. Soit vous allez comme ça, soit vous allez comme ça. Si vous avez une surface aussi, sur une surface, sur un plan, par exemple, vous avez deux orientations possibles, comme ceci ou comme cela. Et si vous avez un tire-bouchon qui va dans ce sens, vous pouvez balader votre tire-bouchon tant que vous voulez, il va toujours rester un tire-bouchon pour la main droite. Mais il existe des espaces qu'on appelle non orientables. Et dans un espace non orientable, vous avez un tire-bouchon à droite, vous allez faire le tour de votre espace non orientable et vous vous retrouvez avec un tire-bouchon qui va dans l'autre sens. Alors, si vous voulez, ça c'est... Apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas permis dans la physique. Donc, on demande que l'espace soit orientable et que le temps soit orientable. Bon, maintenant, dire qu'il y a une flèche du temps, ça veut dire qu'on a choisi une orientation. Ça veut dire que vous avez la droite du temps. Il y a une orientation comme ça, il y en a une comme ça. Dire qu'il y a une flèche du temps, ça veut dire que vous en avez choisi une. La flèche va comme ça. Vous appelez ça le futur et vous appelez ça le temps. Et à ce moment-là, il y a un théorème qui dit que si l'espace-temps est bien orientable, choisir une flèche du temps... c'est aussi choisir une flèche de l'espace. C'est-à-dire, si vous dites que cette direction du temps futur est différente de cette direction du temps qui s'appelle le passé, ça implique que cette direction dans l'espace, tire-bouchon vers la droite, est différente de celle-ci. C'est-à-dire que vous allez avoir... Alors, par exemple, quand vous parlez du temps, vous allez dire le futur est différent du passé. Donc, premièrement, on sait que c'est différent parce que dans la vie courante, on en a bien la notion de la différence. Et deuxièmement, on s'aperçoit qu'en physique, il y a une symétrie qui s'appelle la symétrie T qui est violée. Mais dans l'espace, c'est pareil. C'est-à-dire tourner dans ce sens ou bien tourner dans ce sens, c'est deux choses complètement différentes. Et ça s'appelle la symétrie P. Et la symétrie P, on sait qu'elle est violée aussi. En revanche, le produit des deux... c'est-à-dire ce qu'on appellerait la symétrie PT, et il faut aussi changer les charges, donc on appelle ça la symétrie CPT, elle, on pense que, par un théorème très puissant, elle doit ne jamais être violée. Donc quand vous avez lu peut-être des articles sur la violation de la symétrie T, la violation de la symétrie P, qui ont été finalement des articles qui ont joué un très grand rôle dans l'histoire de la physique, c'était il y a quelques décennies, tout ça, eh bien, ça veut simplement dire qu'on a mis en évidence la flèche du temps, mais on a aussi mis en évidence, de la même manière, la flèche de l'espace, sauf que la flèche du temps, bah, c'est une flèche bien droite, et la flèche de l'espace, c'est une flèche en tire-bouchon, d'une certaine manière, quoi.
Un de vos anciens collègues astrophysiciens disait Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous qui passons dans le temps. Qu'en pensez-vous ?
Moi, j'ai souvent dit ça, hein. Sauf que je ne vais pas dire nous passons dans le temps, je vais plutôt dire nous passons dans l'espace-temps. Nous passons le long de notre ligne d'univers qui est elle-même plongée dans l'espace-temps. Alors, c'est vrai que ce passage de moi-même le long de ma ligne d'univers, je vais appeler ça mon temps à moi. Mais bien évidemment, ça m'est complètement personnel. C'est comme, encore une fois, quand je décris, quand je prends ma voiture et que je parcours l'autoroute du Sud, et si vous prenez votre voiture et vous parcourez l'autoroute de l'Ouest, on fait chacun un parcours, mais ce n'est pas le même parcours. Et chacun de nous, c'est pareil, parcourt sa ligne d'univers à sa manière, avec ses durées propres à lui qui s'écoulent le long de sa ligne d'univers. Et le miracle, c'est que, encore une fois, quand on ne fait pas trop attention à la précision, on arrive à coordonner tout ça, et c'est cette coordination, encore une fois, approximative, qu'on appelle le temps.
Je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre une autre question. Là, nos lignes d'univers vont devoir se séparer, parce qu'en plus, il paraît que quelqu'un a tort sur Internet. Donc nous allons nous séparer. On remercie beaucoup Marc Lachaiseret pour ses lumières.